Je vais partir de, ben, il est plus là, de la remarque de Patrick Bazin et de sa métaphore des oignons. Donc moi, je me situe dans la quatrième et la cinquième pelure. Alors je vous rappelle son système. La quatrième pelure, c'est l'analyse de la diversité des usages. Et la cinquième pelure, c'est-à-dire la diversité, enfin, des usages différents qui portent sur des objets apparemment identiques. C'est quand même ça l'idée. Dans notre jargon, on appelle ça l'appropriation. Et puis sa cinquième pelure d'oignon, c'était le décentrement par rapport aux bibliothèques et la mise en perspective avec l'univers de référence que sont les pratiques numériques, au premier rang desquelles Internet. Voilà, alors je vais peut-être un peu couper dans ce que j'avais prévu de dire. Je vais juste... En fait, on a un peu triché quand on a lancé cette étude par rapport à la commande initiale. Françoise, je ne sais pas où elle est, mais elle va m'en vouloir. Au début, elle nous avait dit il faut que tu nous fasses une étude ou que tu participes à une étude sur les jeunes et la presse. Bon. Et c'est devenu les jeunes adultes, mais pas les jeunes, et la presse magazine, et pas la presse. Alors, ce n'est pas par flemme. Je veux dire, ce n'est pas pour avoir moins de boulot, c'est parce que je suis absolument convaincu que, comme notre objet n'était pas de faire une étude monographique, mais de rendre compte de mécanismes généraux qui sont à l'œuvre dans le rapport à l'imprimé et aussi dans le rapport à l'écrit sur écran, hein, c'est en analysant des objets particuliers à fond qu'on peut arriver à plus d'universel qu'en ratissant très large, si vous voulez. Enfin bon, c'est pas dit de manière épistémologique. De manière épistémologique, on appelle ça la construction de l'objet, mais bon, c'est vraiment la même idée. Et donc, je vais faire exprès de passer mon temps à interpréter, à extrapoler. Le corpus existe. Le corpus, il fait l'objet d'un bouquin qui est sur la collection de la BPI, qui est aussi accessible en ligne. Mais je vais plutôt retenir ce qui est de l'ordre de l'extrapolation générale des comportements culturels. Alors, pourquoi la presse magazine n'est pas autre chose ? La presse magazine, sa caractéristique principale, c'est que c'est une pratique d'abord généralisée et ensuite infiniment plus importante que celle du livre. Je vous donne des chiffres, mais c'est le seul que je vous donnerai, c'est promis, de toute la matinée. Aujourd'hui, il y a 91% des jeunes, des Français. Là, je vais rester sur les Français, après je vais arriver à nos jeunes adultes. Il y a 91% des Français qui lisent des magazines. Bon, on va le dire à l'envers, il y en a 9% qui n'en lisent pas. Vous prenez le livre, il y en a 30% qui n'en lisent pas. Bon. Deuxième élément de comparaison, si vous prenez le noyau dur, hein, c'est-à-dire ceux qui lisent régulièrement des magazines, c'est-à-dire tous les numéros, toute l'année d'un journal, enfin bon, il y a des définitions, c'est 55%. Si vous prenez les lecteurs réguliers de livres, c'est 30%. Et je vous rappelle que lecteur régulier dans les enquêtes d'Olivier Donat et tous les sociologues de la lecture, c'est 10 livres par an, c'est-à-dire un livre par mois. Ce n'est pas non plus si énorme que ça. Alors, si je pousse le raisonnement quantitatif jusqu'au bout, en gros, aujourd'hui, il se publie en France 2000 journaux ou magazines nationaux, donc j'élimine tous les régionaux, payants, donc je vire tous les gratuits, et grand public, donc j'enlève tous les spécialisés, les professionnels, etc. Il en reste encore 2000. Bon. Et compte tenu de leur périodicité, les hebdos sortent 52 fois, les mensuels 12 fois, etc. Ça nous fait combien d'exemplaires diffusés ? Ça fait 1 800 000 exemplaires diffusés sur l'année. 1 800 000. Et je ne m'arrête pas là, parce que ça, c'est les études de diffusion. On fait des études d'audience. Les études d'audience vous montrent qu'il y a en moyenne 3 lecteurs par exemplaire. Alors si c'est Géo ou si c'est Voici, c'est plutôt 10. Les journaux de télé, c'est 3. Il y a des journaux, c'est moins. Mais la moyenne, c'est 3. Donc vous avez déjà 3 lecteurs pour ces 1,8 milliard. Et chaque individu qui lit un journal le reprend en main en gros 2,5 fois pour arriver au bout. On ne lit pas d'une traite. Si vous multipliez tout ça, ça vous fait 13 milliards d'actes de lecture par an. 13 milliards. Alors, à ce niveau-là, on est dans l'ivresse statistique, ça veut plus rien dire. Mais c'est un espèce d'artefact de calcul. Mais ça dit bien, quand même, le caractère absolument massif du phénomène. Et l'autre raison pour laquelle, à part le vertige quantitatif, pour laquelle on s'est intéressé aux magazines, c'est que les magazines passent leur temps à modifier leur formule, passent leur temps à se créer ou à disparaître. C'est pas très cher de lancer un magazine. Et que, du coup, c'est un point d'observation extraordinairement intéressant des modifications de l'imprimé destiné, parce qu'il y a souvent du marketing derrière les magazines, à suivre des modifications de la lecture. Donc c'est un sismographe d'observation de ce qui arrive à l'imprimé. Sismographe que n'est pas le livre, parce que le livre, boum, ça bouge pas, et que n'est pas la presse quotidienne, d'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, et ensuite c'est tellement lourd, et c'est un public en plus qui est maintenant tellement limité, que ça a beaucoup moins de sens. Alors pourquoi les jeunes adultes ? Les jeunes adultes, c'est quoi? C'est pas les jeunes. Toutes les études portent soit sur les jeunes, soit sur les adultes. Donc nous, on s'est pris le sandwich. Les jeunes adultes, c'est les 20-30 ans. Et les 20-30 ans, c'est une génération charnière. Pourquoi? Parce que c'est la première génération adulte qui arrive à maturité en même temps qu'Internet. Je vous rappelle que la massification d'Internet, parce que les chercheurs l'avaient depuis longtemps, je vous rappelle que Google n'a que 13 ans. Bon. Donc, on a la première génération adulte qui pratique à la fois l'un et l'autre. Et d'autres, alors je ne vous explique pas ce qu'est Internet, évidemment. Juste du point de vue de notre problématique, Internet, du point de vue de l'écrit, requiert deux capacités ou réactive deux capacités. La première, et on l'oublie souvent, c'est que pour lire sur Internet, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes sur Internet, il n'y a pas que YouTube, pour lire sur Internet, il faut quand même une sacrée virtuosité de lecture. Une sacrée capacité à passer entre des niveaux de texte, des registres d'écriture, des multiplicités d'émetteurs, etc. Beaucoup plus complexe que sur l'écrit classique. Et la deuxième chose, c'est que pour utiliser Internet, il faut commencer par écrire. Pour lire un livre, on peut lire un livre. Pour utiliser Internet, on accède à une information sur l'écran que si on commence par taper une requête. Et si on la tape mal, si on la tape trop large ou trop étroite, on arrive sur du bruit. On arrive sur 380 000 références ou je sais pas quoi. Et sur le web social, le 2.0, Facebook, etc., on accède aux décrits des autres qu'en étant soi-même contributaire à l'écrit. Donc, au fond, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment cette génération circule entre les prix imprimés et Internet, en prenant comme point d'observation le magazine, et en ayant comme hypothèse que cette génération construit souvent sa réception de l'un, c'est-à-dire de l'imprimer, dans les catégories de familiarité qu'elle a acquises sur l'autre, c'est-à-dire sur l'écran. Et on va voir comment ça circule. Ce n'est pas uniquement savoir si, quand on lit l'un, on arrête de lire l'autre. C'est de savoir comment on s'approprie l'un dans les catégories de l'autre. Alors, la méthodo, comme ces versions courtes, je vous demande de me faire confiance, mais elle est chiadée. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une fusée à 3 étages. On a commencé par faire une analyse secondaire d'une énorme étude faite pour les professions de la presse, qui s'appelle l'AEPM, 25 000 interviews par an. Bon, les sondages sur Hollande, c'est 800. Là, c'est 25 000. Donc, je peux vous dire que des 20-30 ans, il nous en restait encore 3 500 dans l'échantillon. C'est pas mal. Et sur la lecture de 175 magazines. Donc, c'est absolument énorme. Et on a fait une analyse secondaire en se centrant sur les 20-30 ans. On a fait une analyse synchronique, c'est-à-dire qu'on a regardé ce que lisaient les 20-30 ans d'aujourd'hui par rapport aux plus de 30 ans. Et on a fait une analyse diachronique, c'est-à-dire qu'on a regardé ce que lisaient les 20-30 ans d'aujourd'hui par rapport aux 20-30 ans il y a 10 ans, puisqu'on a accédé à toute la base de données depuis 10 ans. Voilà. Je ne vous dis pas les listings. Alors, là, on a repéré des journaux qui étaient significativement liés en termes d'affinité avec les jeunes générations d'adultes. Et ceux-là, on a fait une analyse sémiologique, deuxième étage. C'est-à-dire qu'on a regardé comment c'était écrit, surtout ceux qui parlent de la même chose, par exemple un journal d'actualité, que d'autres journaux que les jeunes ne lisent pas. Et puis, troisième étage, on s'est dit, maintenant, il nous faut un discours de la réception, c'est-à-dire qu'on a fait des interviews, donc on n'est plus dans la socio, on n'est plus dans la sémio, mais dans la psychosociologie. Interview à domicile auprès des gens dans leur contexte de lecture, dans leur bibliothèque, dans leur chambre, etc., en situation. Et puis, des réunions de groupe où on faisait exprès de les faire parler sur les journaux qu'on avait repérés ou sur des pages ou des couvertures qu'on avait aussi identifiées. Alors, ce qui est évident, c'est qu'ils lisent. Les 20-30 ans lisent. Bon, on va se poser la question de savoir s'ils lisent plus ou moins, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne lisent pas comme on avait prévu qu'ils lisent. Et c'est plutôt là-dessus que je vais insister, sur les détournements d'usage ou le braconnage, comme disait Michel de Certeau. Premier indice de la particularité du rapport à la lecture de ces gens qui lisent, c'est la montée de la versatilité. Alors, la versatilité par rapport aux générations précédentes, c'est quoi? C'est une moindre fidélité au titre. Un jour, je lis voici, le lendemain, je lis un truc de sport, le troisième jour, je lis autre chose, et même dans la même famille. C'est-à-dire que c'était inimaginable dans la génération de leurs parents, pour ceux qui lisaient Le Point une semaine, de lire le Nouvel Obs la semaine d'après, ou Le Figaro une semaine, et Libé la semaine d'après. Eux passent de l'un à l'autre. Deuxième élément, moins de fidélité au titre et moindre ritualisation de la pratique. Évidemment, un journal, par définition, magazine, c'est quelque chose qui profondément ancré sur la temporalité et la régularité. Et même ceux qui adorent un magazine ne se sentent pas tenus de lire tous les numéros. peuvent lire un numéro sur deux, un numéro sur trois, c'est comme ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique de production des journaux, c'est des hebdomadaires et des mensuels. La pratique de réception des gens, c'est qu'ils les transforment en irrégulomadaires. Et ça pose un vrai problème parce qu'on n'est plus dans une logique d'adhésion chez les lecteurs de presse de cette génération, même quand ils la lisent beaucoup. Comme chez leurs parents, on est un fidèle de Télérama. Enfin, la Télérama, je peux en parler, puisque j'y ai travaillé, ou du Monde où j'y ai travaillé. Mais on est dans une logique de consommation, c'est-à-dire que chaque exemplaire ne va plus de soi et chaque exemplaire doit refaire ses preuves. Au lieu de se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai mes lecteurs habituels. Ce qui est épuisant quand on est du côté des rédacs, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Alors, montée de la versatilité. Bon, mais quand même, malgré tout, il y a un phénomène de baisse de la lecture par rapport à il y a 10 ans. Et qui vaut pour la plupart des magazines. Quand je compare les chiffres d'il y a 10 ans, les chiffres d'aujourd'hui, la plupart ont perdu en lecture. Bon. Et d'autre part, il y a un phénomène de vieillissement. C'est-à-dire que même les journaux qui marchent aussi bien aujourd'hui en nombre d'exemplaires qu'il y a 10 ans ont un déplacement de leur centre de gravité générationnel et en fait, leur public est en train de devenir plus âgé. Et les nouveaux lecteurs qui sont recrutés ne sont pas des lecteurs plus jeunes que le centre de gravité du canard, mais sont souvent des lecteurs de la même génération que le centre de gravité du canard. Donc ça ne pose pas de problème pour le chiffre d'affaires, mais ça pose des vrais problèmes pour le renouvellement du public. Seuls les journaux qui ont été créés récemment trouvent d'emblée un public de jeunes adultes. Alors que tous les journaux font des nouvelles formules, et les lecteurs de Télérama le savent, puisque la dernière nouvelle formule de Télérama a eu exactement une semaine, j'ai un petit peu participé de loin, c'est évidemment pour retrouver des jeunes lecteurs. L'âge moyen de Télérama aujourd'hui, c'est 43 ans. Bon, l'âge moyen de Télérama il y a 15 ans, c'était 32 ou 33, chose comme ça. Donc il ne se prend pas un an tous les ans, mais enfin bon. C'est un peu compliqué. Alors, autre manière de reformuler la question de la baisse de la lecture, est-ce que c'est une baisse de la lecture ou une baisse de l'achat? Vous allez me dire, c'est apparemment la même chose. Ça n'est pas la même chose. L'hypothèse, en tout cas pour les jeunes adultes qu'on a analysé à travers notre grande enquête, c'est que l'achat baisse tendanciellement plus vite que la lecture. Ce qui peut paraître paradoxal et aberrant. Pourquoi? Parce que la modalité aujourd'hui du rapport à l'imprimé, même chez les gros lecteurs, c'est que c'est une pratique occasionnelle. Pas au sens où Christophe le disait tout à l'heure, c'est-à-dire occasionnelle dans l'échelle temporelle, une fois sur deux, ou une fois sur trois, une fois sur quatre, mais occasionnelle, ça peut être occasionnel fréquent. Je m'explique, ce sont des gens qui saisissent l'occasion chaque fois qu'elle se présente. C'est-à-dire, dès qu'ils tombent sur un canard, ils le lisent. Alors, s'ils tombent souvent sur un canard, ils en lisent beaucoup. Par contre, ils ne vont pas, ou moins que les plus âgés, ou moins que les jeunes d'il y a 10 ans, provoquer cette occasion en allant jusqu'à acheter le journal. Donc le taux de circulation des exemplaires dans cette génération augmente. Voilà, ce qui explique que... Et ça ne vaut pas que pour la presse, je veux dire, ça vaut pour le militantisme, ça vaut pour des quantités d'autres choses. Mais la pratique occasionnelle, au sens de la saisie de l'occasion non provoquée, est absolument centrale dans les pratiques culturelles en général, dans la pratique de lecture en particulier. Et dans les bibliothèques, vous voyez bien, les bouquins repartent plus vite quand ils sont sur les tables que sur les rayons. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais on est un peu dans la même idée. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent comme canard? Je vous ai dit, il y en a 175 dans l'enquête, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. À Reims, il y a un an, j'avais présenté les premiers résultats de l'enquête, j'avais montré plein de journaux. Là, je vais complètement zapper. Je vais garder juste deux zooms, un sur un titre, Courrier International, pour voir ce qu'il est, en quoi il est révélateur d'autres choses, et un sur un genre qui est la presse people. Voilà. Alors, le Courrier International, ça traite de l'actu, ça sort toutes les semaines, il y a un taux de pénétration, une affinité très forte avec les jeunes adultes. Les autres canards qui sortent toutes les semaines et qui parlent de la même actu, ou presque, c'est-à-dire Le Point, L'Express, Le Nouvel Obs et Marianne, font un bide. Donc, au fond, la question, c'est qu'est-ce qui fait que, à sujet ou à domaine identique, les uns sont appropriés et les autres ne le sont pas. Moi, je vous donne trois pistes qui renvoient à d'autres, à autre chose que de la presse. Le premier, c'est le décentrement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un canard, vous le savez, qui pratique systématiquement l'approche sur ce qui se passe à l'étranger ou l'approche sur ce qui se passe en France vu de l'étranger. Ce décentrement, c'est quelque chose qui est très fort dans cette génération. Deuxième chose, le pluralisme. Alors, c'est un journal qui va prendre des extraits dans tous les journaux, et en multipliant les extraits et en les prenant à la source, au fond, ce magazine échappe, dans la génération des jeunes adultes, à la méfiance vis-à-vis des émetteurs uniques que peuvent être Monsieur Le Monde, Monsieur L'Express, etc. Et qu'au fond, il se présente exactement, je reprends la terminologie d'Internet, comme un tiers de confiance ou comme un agrégateur de contenu. C'est-à-dire que là, ils retrouvent une familiarité qu'ils ont avec Internet imprimée. Et troisième élément, c'est la sélection. Alors, tous les journaux font la sélection. C'est-à-dire qu'il y a un tel hyper choix d'informations que tout canard réduit l'information disponible à une information absorbable. Mais eux, ils ne font pas comme les autres. Ils ne font pas de synthèse, ils ne font pas de résumé, ils prennent des extraits. Et les extraits, c'est typique. Et les extraits dans sa forme originelle, c'est-à-dire c'est du coupé-collé. Hein, pour aussi bien les dessins que les articles. Et ça, c'est typique d'une démarche de la modernité qui est portée par cette génération, qui est la démarche du best-of. Le best-of, c'est quoi? C'est une démarche métonymique qui permet de faire l'économie du tout en allant au meilleur, de faire l'économie des temps forts en n'ayant que les temps morts. Et on a la même chose à la télé avec les bêtisiers, les arrêts sur image, les meilleurs moments. On a la même chose dans le disque avec les compiles, avec les téléchargements où maintenant on ne va pas télécharger un album mais un morceau. On a la même chose dans le livre avec la montée des livres d'extraits. Donc là, on est dans quelque chose de profondément générationnel et qui s'investit sur ce canard, mais qui vient d'ailleurs. Deuxième zoom, la presse people. Alors, la presse people, vous en lisez peut-être pas, mais c'est sur ceux qui le lisent le plus, c'est pas ici Paris, France Dimanche, ça c'est fini, c'est Public, c'est Choc, c'est Closer, c'est Oups, etc. Alors pourquoi cette presse nous a mis la puce à l'oreille? Parce qu'on aurait pu étudier la presse psychologique, la presse de cinéma qui marche très bien, des choses comme ça. Parce que cette lecture est aujourd'hui pratiquée autant dans les milieux cultivés que dans les milieux populaires, ce qui n'était pas le cas autrefois. On est vraiment dans la dissonance culturelle, Bernard Lahire, etc., qui a été cité tout à l'heure par Christine. Enfin bon, on les attendait pas là. Et la deuxième chose, c'est que cette presse occupe une place très importante chez les 20-30 ans, plus importante qu'aujourd'hui chez les plus vieux, et plus importante qu'hier chez les 20-30 ans d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des canards, il y a un 20-30 ans sur deux à qui il arrive de lire de la presse people. Un sur deux. C'est quand même assez important. Alors, deux hypothèses pour expliquer ça, qui renvoient à la fois à ce type d'imprimé et à son contexte médiatique. Le premier, c'est que ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont plus curieux, des potins, des histoires de cul et des trucs comme ça. Non, c'est... Alors, tout ça repose sur des interviews, hein, mais je vous fais grâce du corpus. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient de la sphère médiatique, c'est-à-dire de la télé. C'est-à-dire qu'on voit, on a vu depuis très longtemps, il y a eu pas mal de bouquins là-dessus, une montée à l'écran, c'est-à-dire de la visibilité, de la légitimité des personnes, au détriment des corps intermédiaires. Sarkozy les aime pas, il vient de nous le dire encore hier, au détriment des experts, au détriment des groupes sociaux, etc. C'est-à-dire que ce sont des personnes particulières qui ont un problème, qui viennent en parler, ou qui sont présents quand il y a des stars, mais eux, ils sont dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a une montée de la présence des gens ordinaires, hein, des vrais gens, comme les appellent les médias. Et puis, le deuxième mouvement dans lequel ça s'inscrit vient de l'Internet, et en particulier des réseaux sociaux. C'est-à-dire Facebook, Twitter jouent un rôle de people universel pour cette génération de 20-30 ans. C'est-à-dire, d'une part, ça permet la starisation de soi au sein d'un groupe de contact où il est important de se faire voir, et d'autre part, ça permet une proximité de soi, simple utilisateur et spectateur, avec des figures du people dont on suit les agissements, les comportements, etc. On peut même devenir ami sur leur profil. Et au fond, il y a une confusion progressive des frontières entre ce qui est personnel et ce qui est public, à la fois pour toi et pour les autres. Et je vais citer Tisseron, on a les mêmes références. Tisseron a fait un bouquin où il montre que l'intime mise en scène, il appelle ça l'extime, ne pose plus de problème aujourd'hui. Et c'est plus d'une logique de voyeurisme, c'est que voilà. On n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'on y croit sans y croire forcément, à ce qu'on lit, et en même temps, on n'est pas choqué. Donc là, je suis complètement dans l'interprétation, et je vais poursuivre en raccourcissant déjà, et je vais plutôt me centrer sur le rapport au contenu qu'on trouve aujourd'hui dans les magazines qui sont appropriés par les jeunes adultes et qui sont complètement en phase avec cette génération que j'ai qualifiée de génération bilingue, puisqu'elle parle à la fois l'Internet et le papier. Une première piste, c'est le développement de la mise en scène du texte dans l'espace du papier. Pas simplement de l'écriture, mais de la mise en scène du texte. Et la deuxième chose, c'est le déplacement de certaines figures de rhétorique dans l'écriture qu'on trouve à l'œuvre dans les magazines. Alors, je reviens sur le premier, la mise en scène du texte. Ce qu'on constate au sein de cette génération aujourd'hui, des jeunes adultes lecteurs, c'est un déplacement significatif du mode de lecture. C'est-à-dire qu'ils pratiquent beaucoup moins que les générations plus âgées ou que les jeunes d'il y a longtemps, la lecture extensive, la lecture, ce qu'on appelle la lecture linéaire, du début à la fin, dans l'ordre, etc. Et ils pratiquent beaucoup plus la lecture de prélèvement, c'est-à-dire qu'ils vont directement piquer l'information qui les intéresse, le fragment d'information qui les intéresse, la page qui les intéresse, aussi bien sur le papier que sur l'écran, quitte à court-circuiter complètement le fil discursif du message. Qui pose un problème de compréhension, mais qu'on n'évoquera pas forcément là. Et alors, ça a toujours existé en matière de presse, je veux dire, lire en diagonale, ce n'est pas une invention de l'année dernière. Mais ce n'est pas la même chose que lire en diagonale, c'est plus que ça. Et du coup, les journaux, et on le voit bien à l'œuvre dans les magazines, ont inventé des dispositifs de mise en scène du texte qui sont des dispositifs de stimulation de l'attention, une espèce de piqûre sans arrêt, tiens, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, et qui va bien au-delà de ce qui existait avant. Alors on dit, bah oui, c'est simple, maintenant... Les jeunes lisent court, enfin les jeunes adultes, donc les journaux écrivent court. Et puis voilà, bah, c'est pas si simple. D'abord, c'est pas n'importe quel court, et il y a d'autres manières d'écrire que d'écrire court. Alors, pas n'importe quel court. En fait, il y a deux modèles d'écriture aujourd'hui qu'on voit. Alors, c'est une approche idéale typique. Hein. On les a jamais à l'état pur, mais quand même. Il y a le modèle du clip et le modèle de la balise. Alors, le clip, c'est quoi ? C'est... Un, de la brièveté, alors les textes sont brefs, bon, ça c'est vrai. Bon. Deux, de la sursignalisation, c'est-à-dire que les titres prennent une place incroyable. Et c'est normal, plus les textes sont brefs, moins on a de chances de les lire si on ne les surtitre pas à fond, et quelquefois de manière tout à fait excessive. C'est-à-dire qu'il y a une montée de l'excès dans le titre qui est liée au raccourcissement des textes. C'est-à-dire qu'il faut augmenter leur probabilité de lecture. Hein. Et du coup, d'ailleurs, c'est comme ça que la presse est en train de creuser sa tombe, puisque quand on promet un miracle, que ce soit sur un régime alimentaire ou sur tous les secrets de François Hollande ou sur n'importe quoi, et que le papier fait même pas un feuillet, c'est forcément déceptif. Donc, brièveté, sursignalisation et une organisation dans la page. Alors, vous qui lisez ou qui regardez des journaux de type People, mais pas seulement, quelquefois, ça a l'air complètement foutraque, ça part dans tous les sens, il y a des encadrés, des détourages, des machins. Et en fait, c'est pas du fourre-tout, c'est organisé. Autrefois, les brèves étaient réservées aux informations sans importance et les papiers longs aux informations importantes. Aujourd'hui, même pour les sujets importants, le sujet est découpé en autant de brèves qu'il y a d'angles. Et tout ça est balancé sur la page. Mais on ne peut le lire que... C'est-à-dire que le lecteur va lire ça en désordre en fonction des titres, mais il ne peut introduire son désordre à lui que s'il y a de l'ordre dans la page. Et si vous regardez les mises en page des canards qui écrivent court, c'est structuré à mort. Alors c'est flashy, c'est tout ce que vous voulez, mais en fait c'est une espèce de carte du territoire de l'article qui est structurée à mort, de manière à ce que le lecteur puisse introduire son absence de structure ou son désordre à lui. Alors ça, c'est le modèle du clip. Et puis le modèle de la balise. Le modèle de la balise, c'est quoi ? C'est du texte avec des tas d'astuces dont l'objet est de permettre au lecteur d'anticiper le contenu. C'est-à-dire qu'au fond, les jeunes adultes aujourd'hui ne sont plus prêts à lire pour savoir si c'est bien ou à lire jusqu'à ce que ça devienne bien, parce que le début est un peu lent, bon... Maintenant, ils veulent repérer tout de suite le meilleur et y aller droit au but. Et pour accueillir une telle démarche, qui est une répercussion dans le domaine de l'écrit, de la montée de la culture de l'impatience, qu'on voit partout, ou de la culture du zapping, au fond, les chapeaux et les titres, ça suffit plus, même les intertitres. Et les magazines multiplient aujourd'hui des tas d'astuces, comme des extraits qui sont mis en avant, en maquette, des relances, qu'on appelle les relances, c'est-à-dire une petite phrase qui est ressortie, pas la résumé, pas la synthèse, le best-of, la meilleure phrase, hein, qui peut être d'ailleurs un teasing, c'est-à-dire qui peut être une phrase qui dit qu'il va y avoir quelque chose de bien sans donner l'info, alors qu'avant, on surtitrait en donnant l'info de synthèse. Ça peut être des mots-clés soulignés, ça peut être des citations, des mises en page à différents niveaux, des jeux typographiques, etc. C'est-à-dire qu'au fond, ça multiplie ce qu'on pourrait appeler la lecture indicielle. C'est-à-dire, ça donne des indices de ce qu'il y a derrière. Un petit peu comme le zapping. Le zapping, on voit une image et on en déduit que les images qui vont suivre sont pour moi ou pas pour moi. Donc, c'est à partir du cœur même du texte que ça se passe. Et en fait, Enfin, moi, d'ailleurs, la nouvelle formule de Télérama reprend un peu ça en faisant les quatre premières lignes de chaque papier un peu long, plus gras que le reste, de manière à ce que les gens soient intéressés par le début, et puis après, on peut revenir à la typo encore 8 ou encore 10, un peu comme quand on commence par élever la voix. Après, quand on baisse la voix, tout le monde tend l'oreille. Donc, c'est plein de, voilà, il y a des tas d'astuces comme ça. Et au fond, ça donne des avant-goûts. Et aujourd'hui, on n'est pas condamné au texte court. C'est de la foutaise. Ne croyez pas les gens qui vous disent ça. Et surtout pas les profs en école de journalisme qui vous disent qu'au-delà de 3500 signes, tout le monde décroche. C'est pas vrai. Ce qui fait problème ou ce qui fait difficulté aujourd'hui aux jeunes adultes, ce n'est pas le texte long, c'est le texte long non balisé. C'est ça le problème. Et il faut continuer à faire du texte long parce que le discursif, de temps en temps, il faut raisonner, mais il faut le baliser à fond. Voilà. Alors, je vous avais parlé de déplacement de rhétorique à l'œuvre dans l'écriture de presse. Je vous en donne quatre. Et après, c'est promis, j'arrête pour garder un petit peu de temps pour la discussion. Alors, c'est plus dans la mise en scène du texte, c'est-à-dire en gros typographie, editing, etc. C'est dans l'écriture du texte même, c'est-à-dire dans les contenus, la manière de parler des contenus. Premier déplacement que l'on voit à l'œuvre dans les journaux qui sont lus préférentiellement par ces jeunes générations et que l'on entend dans le discours de restitution quand on a fait la phase d'analyse de psychosociaux, c'est un déplacement de l'expertise à l'expérience. Alors ça veut dire quoi ? Longtemps, en presse, comme à la télé d'ailleurs, c'était mais pas sur Internet où ça tout de suite était les témoins qui ont pris la parole, mais en presse et à la télé, c'était les experts qui bénéficiaient de la légitimité maximum. Aujourd'hui, les 20-30 ans apprécient particulièrement des magazines ou des articles qui font la part belle au vécu, qui font la part belle au témoignage. Parce que cette légitimité ne vient pas de la connaissance, elle vient du partage du vécu, qui fait écho au vécu du lecteur. Et ça, y a même parfois une confusion entre les deux. C'est-à-dire, je me souviens d'un canard, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'est parents ou enfants, qui sont des journaux très lus hein, par les jeunes générations, ils ont 20-30 ans, qui est l'âge, enfin vers les 30 ans, où on commence à fonder des familles. Et il y avait un papier qui était signé de Duchemol, je ne sais plus comment il s'appelait, pédiatre à l'hôpital, machin, virgule, père de Marion, 8 ans, et de Pierre, 4 ans. C'est-à-dire que c'était un expert qui se légitimait par son expérience. Quand même, là, on a la totale, si vous voulez. Et donc, cette génération est particulièrement sensible à la relativité des opinions. C'est quand même une génération assez relativiste. Et donc, à la portée des cas particuliers, ce qu'on appelle dans notre jargon de presse le testimonial. Il y a quelqu'un qui témoigne d'eux. Parce qu'il y a un crédit qui est le crédit de l'authenticité, même si nous, on sait bien dans la presse, que ça peut être du pipeau de chez pipeau, micro-trottoir, et le crédit de l'efficacité, puisqu'ils nous parlent de quelque chose qu'ils ont testé pour eux-mêmes. Hein. Donc, je peux me le transposer. Donc, déplacement de l'expertise à l'expérience comme figure légitime de l'émetteur. Deuxième déplacement, c'est le déplacement du pratique au pragmatique. Alors, vous allez dire que je joue sur les mots, et je joue sur les mots, d'ailleurs. Mais la lecture est de plus en plus placée sous le signe de la lecture pour faire, plutôt que de la lecture pour savoir. Et vous savez très bien, quand vous suivez les statistiques de l'édition de livres, que la montée du livre pratique relève aussi de cette tendance-là dans l'édition. Alors, il y a toujours eu des rubriques pratiques dans la presse, il y a toujours eu des journaux pratiques, il y en a vu des rubriques pratiques de plus en plus nombreuses, y compris dans des endroits où on ne les trouvait pas, c'est-à-dire la presse quotidienne. Vous en avez, dans le Monde, vous avez des pages sur comment acheter un camping-car. Donc, c'est quand même assez nouveau. Mais là, je suis dans la presse magazine et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une manière de traiter le sujet qui se déplace. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça augmente, et surtout dans ces canards-là. Avant, les problèmes étaient posés... Enfin, aujourd'hui, ils sont plutôt posés dans les catégories de l'usage direct de l'information, de la manière dont on peut en faire quelque chose, donc dans les catégories du sujet. Avant, elles étaient plus volontiers construites dans les catégories de l'objet, c'est-à-dire de l'analyse, de la forme de ce dont on parle, etc. Je prends un exemple que j'avais déjà donné à Reims, qui est dans un canard qui devait être psychologie, ou je ne sais plus lequel, très lu psycho. Avant, on aurait eu un papier sur les conséquences de la séparation du couple pour l'enfant, classique. Aujourd'hui, on a une somme de questions précises, c'est que faire s'il pleure la nuit, qui doit aller le chercher à l'école, éventuellement qui doit récupérer le chien, etc. C'est-à-dire qu'on est passé d'une culture des problèmes, dans l'écriture, à une culture des solutions, ce qu'on appelle le passage du pratique au pragmatique, qui consiste culture des solutions, à décomposer un gros problème complexe, voire insoluble, comme celui que je viens d'évoquer, en une multiplicité de petits problèmes solubles. Ce que j'appelle, moi, la fragmentation utilitariste, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans la presse magazine, dont je vous rappelle qu'elle est essentiellement une presse de mode de vie ou de centre d'intérêt. Donc c'était mon deuxième déplacement, je ne sais plus où j'en suis, expertise-expérience, du pratique au pragmatique. Troisième déplacement, et là je reviens sur ce qui a été dit par Christine, le déplacement de l'humour à l'ironie. Alors, l'humour joue pour cette génération un rôle absolument fondamental. C'est vrai pour les ados dont elle a parlé, c'est vrai pour mes jeunes adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, pour ces jeunes adultes, en tout cas, c'était pas, pour les ados, c'était plutôt un moyen de dominer des situations difficiles à vivre. Pour les jeunes adultes, c'est plutôt un moyen de faire de la critique sociale sans passer par les grands systèmes d'analyse sociale que sont, je sais pas quoi, les systèmes politiques, etc. Et on voit d'ailleurs monter l'humour qui substitue à des grilles plus globales de compréhension du monde, les chroniques à la radio, les one-man shows, le journal de Canal, etc. Donc qui assume une fonction d'analyse critique du monde. Alors dans les titres de presse, ça se passe de la manière suivante. Avant, on avait essentiellement de l'humour, c'est-à-dire des trucs qui étaient balisés, ici c'est marrant. Donc il y avait des rubriques humour, il y avait des dessins de presse et il y avait un endroit pour ça. Aujourd'hui, l'humour prend la forme de l'ironie en ce sens qu'on la retrouve partout et surtout qu'on la retrouve avec des codes graphiques déplacés, avec des titres décalés, avec des photos dissonantes sur n'importe quel sujet, y compris les sujets sérieux. C'est ça le glissement de l'humour à l'ironie. Et alors qu'avant, c'est plutôt sur les sujets légers. C'est vraiment la transposition de l'effet Canal+ dans l'écrit. Et ça crée un espèce de contrat de lecture ludique dont les jeunes nous disent... Sans quoi, moi, vieux con, je dis qu'ils se trompent. Mais les jeunes nous disent que ça les préserve d'un contrat de lecture idéologique, on les manipulerait à leur insu. Bon. Même si les plus lucides ne sont pas dupes. C'est-à-dire que ça leur permet, pour dire en termes plus jargonnants, de substituer les catégories de la plausibilité, c'est-à-dire ça c'est possible, j'y crois sans y croire, tout en y croyant, etc., aux anciennes catégories de la vérité qui manifestement leur posent problème. Alors, déplacement de l'humour à l'ironie. Le quatrième, et j'arrête, c'est le déplacement de la critique à l'avis. La fonction critique, c'est central dans la presse magazine, encore plus que dans le livre, et surtout dans l'univers culturel et de loisirs. C'est les critiques de radio, de télé, de radio, c'est fini ça, de ce qu'il faut voir, ce qu'il faut lire, ce qu'il faut visiter, écouter, etc. Pas seulement dans l'univers de la mode, dans l'univers de la vie quotidienne, voire dans l'univers de la politique. Les attentes des jeunes dans ce domaine restent très fortes, mais elles n'en prennent plus les mêmes voies que leurs aînés. On est moins dans la critique, on est plus dans les avis. Alors la critique, c'est quoi? C'est des points de vue analytiques. Alors à Télérama, on fait beaucoup ça, et on n'en est pas encore tout à fait sorti. Ça se réfère à un corpus contextuel, c'est-à-dire qu'on dit que tel dernier film de Julie Delpy, par exemple, on l'a référé à Woody Allen. Bon, voilà. C'était la semaine dernière, ça. Et c'est construit comme un argumentaire. C'est une portée prescriptive. Les avis, c'est quoi? C'est pas démonstratif, c'est assertif, comme on dit en sémiologie. C'est pas de l'argumentation, c'est du commentaire ou de l'énonciation directe. Ça me plaît, ça me plaît pas, c'est bien, c'est branché, c'est pas branché. Ça porte pas forcément sur la totalité du film, ça peut porter sur une partie du film. Si je reste dans mon exemple de film, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une séquence qu'il faut absolument pas rater, c'est la fameuse séquence où. Voilà. Tant pis si le reste du film n'est pas terrible. Voilà. Et surtout, ce qui est en jeu, c'est les valeurs d'émotion. C'est-à-dire que l'avis dit « je », la critique dit « il » ou dit « on ». Et je ne suis d'ailleurs toujours pas arrivé à faire passer à Télérama le « je ». Le « je » est indécent. Aucun critique de cinéma n'a dit « j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai été ému ». On dit « on voit se dégager une certaine émotion, surtout vers la fin bon. ». Et voilà, et les valeurs d'émotion doivent dire « je ». Et Internet dit « je », et ces journaux-là disent « je ». Et au fond, eh bien, ce qui n'est pas simplement bien de toute éternité, mais aussi, eh bien, ce qui me fait du bien. Et ça vaut pour le décodage des discours aussi politiques, ça vaut pour tous les décodages. Et si on peut multiplier les avis entre des journaux ou entre des journaux et Internet, c'est encore mieux. Donc on a un passage du singulier, la critique, au pluriel, les avis. Et finalement, si la presse continue à faire de l'usage chez les 20-30 ans, parce qu'elle continue à faire de l'usage, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de désaffection, elle ne fait plus forcément référence. C'est quand même un changement de statut assez important. Conclusion. Donc cette génération qu'on continue à lire, mais de manière moins investie, et là je renvoie à une catégorisation, une distinction, pardon, qui est entre l'intérêt et le désir. L'intérêt, c'est quoi? C'est ce qui fonde l'usage. Bon, un journal, c'est ce qui fonde la lecture ou la consultation ou la pratique occasionnelle. Je tombe dessus, il y a une coïncidence entre mes centres d'intérêt et ce dont ça parle, ou les gens dont ça parle, ou voilà. Donc, j'y vais. Le désir, c'est quoi? Le désir, c'est plus fort, c'est ce qui fonde l'appropriation, c'est ce qui fait que je ne me contente pas de le lire, j'ai envie de le garder, j'ai envie de le couper, j'ai envie de le faire circuler. Ça débouche donc sur de l'achat, généralement. C'est une pratique investie qui tient à un lien avec le journal, une crédibilité de l'émetteur, ce qu'on appelle dans notre jargon le contrat de lecture. Et c'est quoi un contrat de lecture? Alors ça, c'est une notion qu'on utilise beaucoup quand on fait de l'analyse de presse, que je n'utilisais pas quand je bossais à Beaubourg, parce qu'on travaillait plutôt sur du livre, des choses comme ça. C'est une notion qui n'existe pas pour le livre, cette notion de lien permanent. Le livre, c'est toujours un prototype. Chaque bouquin est un prototype. C'est un unica, on dirait, en histoire de l'art. Alors qu'un canard a des tas de variantes, mais qui relève toujours d'un registre identique, c'est un typica, toujours pour reprendre les catégories de l'histoire de l'art. Et le lien, c'est ce qui se construit au fil d'un numéro à l'autre, puisque la presse, c'est d'abord de la temporalité, et ce n'est pas simplement l'intérêt pour telle info dans tel numéro. C'est quoi un contrat de lecture et qu'est-ce qui fait que la presse est aussi forte, mais commence à avoir un petit souci? C'est une relation, c'est-à-dire que le lecteur, non seulement il doit être pris en compte dans les pages du journal, il faut qu'il sente, même si ce n'est pas écrit, un « nous » implicite ou un « vous » implicite, hein, mais il faut qu'il se sente... Ils se reconnaissent dans la communauté des autres qui le lisent. Alors sur Internet, c'est facile. Sur n'importe quel site, il y a de toute façon des réactions. On voit tout de suite quels sont les autres qui le lisent. On se dit, non, ça c'est un truc de vieux con, parce qu'on voit bien que les gens qui réagissent sont des vieux cons. C'est un truc de droite, moi je suis de gauche, etc. Après, c'est plus compliqué, mais il y a des tas de marqueurs symboliques qui permettent à chacun de sentir si au fond, non seulement j'adhère à ce journal, mais j'adhère aux autres qui le lisent comme moi. Quitte à ce que les autres soient un peu au-dessus de moi. C'est-à-dire, on sait très bien que les canards économiques pour 4 sup sont lus par des canards moyens qui, comme ça, sont aspirés par l'image positive des autres lecteurs. Alors, donc, une relation, une anticipation, puisque ça revient à un journal, mais ça ne marche que si, en même temps, ce n'est pas toujours pareil. Donc, un journal, c'est quoi? C'est un mélange d'imprévisibilité, c'est un événement ou un sujet, on ne sait pas lequel, et de prévisibilité, c'est-à-dire la manière de l'écrire et la rubrique qui l'accueille. C'est, en gros, d'une certaine manière, les lecteurs, pour que ça marche, doivent être surpris par ce qu'ils attendent. En gros, c'est ça, la définition. La troisième chose, c'est un rituel qui est lié à la répétition. Voilà. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'il y a contrat de lecture? Comment on peut le diagnostiquer? Alors, on peut le diagnostiquer en dépouillant le canard et en analysant le discours des gens. Mais en gros, il y a un indice qui est très fort. C'est quand le lecteur referme le journal, il ne doit pas être seulement content de l'avoir lu. Ça, c'est un marqueur d'intérêt. Il doit être en manque du suivant. Ça, c'est un marqueur de désir. Et aujourd'hui, la presse magazine continue à bien se porter. Elle se porte même en France infiniment mieux que dans le reste de l'Europe et infiniment mieux, ou c'est plutôt les quotidiens, et infiniment mieux que, donc plus fragile à mon avis, et infiniment mieux qu'en Amérique du Nord, et infiniment mieux que le livre. Elle continue plutôt à se porter mieux que d'autres secteurs de l'imprimé, mais elle est confrontée aujourd'hui qualitativement, et non pas quantitativement, à un double affaiblissement de la lecture, qu'à un affaiblissement de la ritualisation et un affaiblissement du désir, qu'on voit particulièrement dans cette génération. Je m'arrêterai là.